Voilà, mes amis, on reprend, comme chaque dimanche, notre cours de Tanya. Un minuscule résumé pour reprendre la notion qui a été expliquée la semaine dernière. Vraiment, une nekuda, ça veut dire vraiment un point. Avant de descendre dans ce monde, on fait jurer l'homme et on lui dit « Sois un sadique et ne sois pas un rachat ». Tout a été expliqué dans les détails dans le cours de la semaine dernière. Et je veux juste revenir sur la notion de tzaddik parce que le Rav va continuer à en parler, le Admour HaZaken. Comme on l'a expliqué, le tzaddik n'est pas un homme qui ne fait que étudier, que prier. Ce n'est pas un serviteur de Dieu dans le sens quelqu'un qui est complètement enfermé dans un monde spirituel. Le tzaddik, la preuve, Yosef HaTzaddik, le seul qui est appelé tzaddik, c'est Yosef parce que Yosef était dans ce monde. Yosef a dirigé l'Égypte pendant 80 années, il était en prison pendant 12 ans, il n'est jamais tombé. Le tzaddik est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Celui qui n'est que dans le monde spirituel n'est en aucun cas un tzaddik. C'est un bon juif, au maximum, mais pas plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, pour être un tzaddik, d'ailleurs dans le mot tzaddik, il y a le mot tzedek qui veut dire justice, tu dois être confronté à ce monde et te comporter comme un homme juste. À ce moment-là, on peut t'appeler un tzaddik comme Yosef a tzaddik. Et donc, on va continuer le texte et l'Admour HaZaken dit « Ach ha'inyan » pour comprendre. « Ki ine matzinu bagmara e chalukot » La Gmara divise l'humanité et en priorité le peuple d'Israël, en cinq catégories. Je vais d'abord lire et après on expliquera. Il y a celui qu'on appelle tzaddik vetovlo, un tzaddik dont la vie est une vie bonne. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il n'a pas d'épreuve, il n'a pas de difficulté. Bien qu'on verra par la suite que le Admour HaZaken va expliquer les choses plus en détail, mais pour l'instant, comme je l'ai dit dans le premier cours, le Admour HaZaken prend énormément de temps pour rentrer vraiment dans les détails les plus profonds. Donc on est obligé de suivre son chemin. Et donc j'explique les choses à un autre niveau pour l'instant. Donc on a, première catégorie, le tzaddik vetovlo, c'est-à-dire un homme qui est injuste, donc qui vit dans ce monde, qui n'est pas enfermé dans une illusion spirituelle. Il vit dans ce monde, vetovlo, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, réussit. Après, on a la deuxième catégorie, tzaddik veralo, un tzaddik qui a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans ce monde, deuxième catégorie. Et tout de suite, il explique les deux premières catégories, qu'est-ce que c'est le tzaddik dont la vie réussit et le tzaddik qui a des difficultés. J'ai sauté. Il y a le tzaddik vetovlo, tzaddik veralo, après il y a le racha vetovlo, un homme extrêmement méchant, mais tout lui réussit dans la vie. Sa vie est une parfaite réussite, troisième catégorie. Et maintenant la quatrième catégorie, racha veralo, un rachat qui a de grandes difficultés dans sa vie. Et enfin, la cinquième catégorie, le benoni, ça veut dire quelqu'un qui n'est ni vraiment tzaddik, ni vraiment rachat. Il est entre les deux, il s'appelle benoni. Benoni veut dire celui qui est entre toutes les quatre premières catégories. Donc je résume les quatre premières catégories et je vais bien sûr devoir les expliquer, à notre niveau bien sûr. Il y a le tzaddik vetovlo, l'homme qui est impliqué dans ce monde et tout lui réussit. Tzaddik veralo, l'homme qui est impliqué dans ce monde, mais il a de grandes difficultés. Après, il y a le méchant vetovlo, un méchant pour qui tout réussit. Le méchant veralo, le méchant qui lui aussi a de grandes difficultés. Et enfin, le benoni. Bien sûr, on va voir que le Balatania va se concentrer énormément sur la notion de benoni, mais on le verra plus tard. À notre niveau, je vais commencer à expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est tzaddik vetovlo ou tzaddik veralo? Comment, s'il est tzaddik, comment peut-il avoir des difficultés? Comment peut-il avoir des épreuves? Alors il faut savoir que dans l'homme, il y a deux dimensions. La dimension extérieure, qui est l'action, Est-ce que je tombe? Est-ce que je ne tombe pas? Et il y a la dimension intérieure qui est la pensée. Ça veut dire, est-ce que je pense à de mauvaises choses et malgré tout, je suis suffisamment fort pour ne pas tomber? Et c'est exactement à ce à quoi fait allusion nos maîtres. Tzadik v'tov lo, c'est un homme qui est arrivé à se parfaire au point que non seulement il est absolument hors de question qu'il puisse tomber dans une tentation, une femme, l'argent, etc. Il ne tombera pas, mais même au niveau de ses pensées. Il a complètement, on pourrait dire, maîtrisé ses pensées au point que même s'il voit une belle femme qui essaye de le séduire, il n'y a aucun contact, ça ne réveille en lui aucune mauvaise pensée. Et donc il est parfait au niveau de son extériorité et de son intériorité. On lui propose une somme énorme d'argent en échange d'une signature corrompue sur un contrat, etc. Ça ne lui vient même pas à l'idée de signer par rapport à cet argent. Je m'excuse de le dire, dans un autre domaine, si quelqu'un rentrait chez moi le Shabbat et me disait « Regarde, je te donne 1 milliard d'euros et appuie sur l'interrupteur ou transgresse Shabbat », je vous dis très sincèrement que je n'aurais même pas besoin de me poser la question « Le faire ou pas le faire ?» C'est nul et complètement nul. Pour moi, profaner Shabbat, c'est des milliards de fois plus important que 1 milliard d'euros. Donc on peut me proposer 1 milliard d'euros, j'aurais même pas, on pourrait dire, une tentation qui va me venir à l'esprit. Parce que pour moi, Shabbat est au-dessus de tout. Et donc rien ne pourra me faire tomber le Shabbat. Alors, ça c'est déjà, j'oserais dire, plus facile, parce que c'est déjà quelque chose de très spirituel. Mais quand tu es dans le monde matériel, tu es un homme d'affaires, et qu'on te propose 1 million d'euros en échange d'une certaine corruption, et que tu n'as même pas la pensée de te dire « je le fais pas », et puis finalement tu ne le fais pas, mais tu as quand même eu la pensée « je le fais pas », ça veut dire qu'au niveau de ton intériorité n'est pas parfaite. Parce que si ton intériorité était parfaite, même l'idée de le faire ou de ne pas le faire ne serait même pas montée à ta pensée. Alors maintenant on va expliquer. Comme je l'ai dit, le tzadik v'tov lo, pourquoi il a une grande réussite dans sa vie? Parce qu'il s'est complètement transformé sur le plan de son extériorité, mais aussi sur le plan de son intériorité. Rien ne peut attaquer son cerveau. Il a des barrières, des murailles fortes. Toutes les tentations de ce monde ne peuvent pas atteindre son cerveau. En échange du fait que cet homme-là a travaillé, parce que pour arriver à être un homme qui domine son extériorité, il ne tombe pas physiquement, et qui domine aussi son intériorité, ce qui est le plus difficile, il faut qu'il ait travaillé pendant des années, des années, des années. Et quand il arrive à ce niveau-là, Hachem le récompense. Et donc, je vais poser quelques questions après, on verra que ce n'est pas si simple que ça. Pour l'instant, j'explique les choses à un premier niveau. Et donc, Hachem le récompense et toute sa vie va être une réussite parfaite. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé pendant des décennies pour être un homme que même une séduction ne va même pas atteindre son cerveau. Qu'est-ce que c'est le tzadik veralo? Le tzadik a des épreuves, des grandes difficultés. Il est tzadik au niveau de son extériorité. C'est-à-dire que rien ne pourra le faire tomber. Mais au niveau de son intériorité, c'est pas si simple que ça. Je vais donner un exemple simple tout à l'heure, dans quelques instants. Au niveau de son intériorité, s'il voit une belle femme qui essaye de le séduire, c'est pas évident qu'il n'aura pas une tentation intérieure. Il ne tombera pas, puisqu'il est tzaddik, donc il ne tombe pas. Mais au niveau de son intériorité, c'est déjà plus difficile. Quelqu'un va venir lui proposer 1 million d'euros pour une certaine corruption, il aura une pensée, je le fais, je le fais pas, il le fera pas. Mais il aura malgré tout une faiblesse au niveau de son intériorité. Alors c'est lui qu'on appelle tzaddik veralo. Alors pourquoi Hachem lui envoie des épreuves? Justement, Hachem lui enverra des épreuves jusqu'à ce qu'il arrive à purifier son intériorité. Encore une belle femme, encore de l'argent, encore ci, encore ça. Parce que le tzaddik sait que plus il aura des épreuves, et plus il va justement pouvoir développer, dévoiler toutes les forces qui sont cachées en lui pour arriver à un point où aucune tentation, aucune corruption ne lui parlera. Et à ce moment-là, il deviendra un tzaddik v'tov lo, un tzaddik qui a une vie réussie. Donc, les épreuves ne sont pas là pour le casser. Les épreuves ne sont pas là pour le punir. Les épreuves sont là pour l'aider à dominer ses pensées au point qu'il ne tombe plus. Qu'est-ce que c'est maintenant Racha Vetovlo? Alors là, c'est un texte, enfin plusieurs textes qui sont dans le Talmud. Racha Vetovlo, un Racha non tout réussi. Ça veut dire qu'on parle d'un homme qui est à un niveau de corruption, mais alors total, toutes ses pensées, toutes ses actions, tous ses sentiments, c'est uniquement faire le mal, faire le mal, faire le mal, faire le mal. Il n'a même plus, on pourrait dire, le moindre réflexe de se dire « mais pourquoi je ferais ce mal ?» Il est complètement, totalement corrompu. Alors vous me poserez la question « mais alors pourquoi Hachem lui donne tout ?» Alors il faut savoir qu'il y en a un sur 1000 générations, un homme comme ça. Mais pourquoi Hachem lui donne tout ? Nos maîtres nous disent « parce que Hachem le perd dans ce monde et c'est fini, après ce monde, il disparaît. » Donc Hachem, justement, pour le tromper encore plus, lui donne tout. Comme ça, il a l'impression que finalement, sa corruption, elle ramène tout ce qu'il veut. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il mourra à 60 ans, 70 ans, 80 ans, son âme est complètement rayée, son corps est rayé, il ne vit plus. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de résurrection, même pas il va en enfer. Même pas il va au Géhinnom, il est complètement rayé. C'est ce que disent nos maîtres, un homme qui n'a pas d'épreuve pendant 40 jours, bon, c'est impossible. D'accord ? Même l'enfer n'en veut pas. À qui nos maîtres font allusion ? Justement à ce genre, de Réchaïm, qui sont tellement, tellement, tellement tombés dans la corruption au point de ne plus avoir le moindre réflexe de dire « Allez, arrête !» Que finalement ces gens-là ne vivront que sur terre. Hachem leur donne la réussite dans ce monde pour les tromper, pour qu'ils continuent justement à être comme ils sont, pour qu'ils ne se rendent pas compte que finalement, dans quelques années, ils disparaissent entièrement, ils ne vivront plus. Qu'est-ce que c'est le rachat vers l'eau? Un rachat qui a des épreuves, un méchant qui a des épreuves. C'est quelqu'un qui a au moins, au niveau de son extériorité, il fait du mal, mais au niveau de son intériorité, il est mal dans sa peau. Ah, pourquoi j'ai accepté cette signature? Oh là là, pourquoi j'ai trompé ma femme? Pourquoi si? Pourquoi ça? Ça veut dire qu'il a des remords en lui. Il se sent pas bien en lui. Et donc, comme il ne se sent pas bien en lui, exactement comme ce que j'expliquais tout à l'heure, Hachem lui envoie des épreuves, pas pour le punir, pour l'aider, justement, à surmonter. Parce que comme Hachem voit qu'au moins au niveau de son intériorité, il a des remords, il a des regrets, il se pose des questions, même si au niveau de son extériorité, il est tombé, je dirais, la différence entre lui et le premier méchant que j'ai cité, c'est que lui, en vérité, il tombe plus parce qu'il est faible. Il n'arrive pas à résister. Pas parce qu'il veut faire le mal comme le premier, et parce que c'est dur. C'est très dur. On lui propose 1 million d'euros pour une signature, et qui a la force de résister? Une belle femme vient et le séduit, et comment il a la force de résister? Donc, il ne tombe pas parce qu'il est, on pourrait dire, corrompu dans le sens le plus total du terme, parce qu'il est faible. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem lui envoie des épreuves, pas pour le punir, pas pour le casser, pas pour le briser. Des épreuves qui vont l'aider justement à dévoiler toutes les forces les plus profondes qui sont cachées en lui. Et il va les dévoiler et peut-être qu'à force d'avoir des épreuves, un jour il arrivera à devenir un vrai tzaddik. Je vais donner un exemple. Yosef n'est pas devenu un tzaddik tout de suite. La première épreuve qu'il a eue avec Madame Poutifar, nos maîtres nous disent qu'à un millimètre près, il a failli tomber. Quand c'était un jour de grande idolâtrie, toute la famille est partie au temple. Elle a fait croire qu'elle était malade, elle est restée à la maison. Yosef, bien sûr, comme il n'était pas idolâtre, il ne va pas aller au temple non plus. Ils sont restés tous les deux. Elle lui a sauté dessus, elle l'a séduit. Il a craqué. Il s'est déshabillé. Elle s'est déshabillée, et au dernier moment, quand ils allaient vraiment être ensemble, il s'est retenu, il s'est enfui, au point de laisser même ses habits sur place, il s'est enfui. Il n'a même pas eu la force de prendre ses habits avec lui, tellement il a voulu s'enfuir pour ne pas tomber. Ça veut dire que son intériorité n'était pas encore parfaite. C'est pour ça que tout de suite après cette épreuve où son intériorité n'était pas parfaite, il va aller 12 ans en prison. Pourquoi il va 12 ans en prison? C'est une épreuve inimaginable, surtout il y a 4000 ans, 12 ans en prison en Égypte. Aujourd'hui, même en Égypte, on ne tient pas plus que quelques mois dans une prison. 12 ans en prison, pourquoi? Parce qu'Hachem lui a envoyé cette épreuve pour lui permettre de devenir un tzaddik gamour, un tzaddik total. Total. Et la preuve, en sortant de prison, il devient le dirigeant de l'Égypte. Ça veut dire qu'on voit qu'il a commencé comme tzaddik vera alo, tzaddik avec de mauvaises pensées. Il ne tombe pas dans son extériorité, mais dans son intériorité, oui, il tombe, il s'est comme déshabillé. Et après, pour l'aider à s'en sortir complètement, Hachem lui donne 12 ans de prison dans des conditions catastrophiques qu'on ne peut même pas imaginer. Comme j'expliquais dans d'autres cours, il était très très beau. Et donc tous les hommes lui couraient derrière pour le violer. Et donc il a eu besoin d'une force inimaginable pour pas perdre la tête. Pendant 12 ans, on lui courait constamment derrière pour le violer, puisqu'il n'y avait pas de femme dans une prison, évidemment. Donc les hommes avaient besoin d'une aventure sexuelle, même avec un homme. Et comme il était extrêmement beau, tout le monde courait derrière lui. Vous imaginez l'épreuve, de quoi devenir fou. Mais il a compris que cette épreuve était pour l'aider à dévoiler en lui des forces inimaginables qui vont faire qu'il va devenir un vrai, 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 vrai tzaddik. Au point que même son intériorité ne tombera plus jamais. Voilà. Donc, on a donné cet exemple de Yosef, on pourrait en donner beaucoup d'autres exemples. Il faut comprendre, mes amis, que personne ne peut tout de suite être tzaddik vetovlo, un tzaddik où tout lui réussit. La plupart commencent, on va dire, par être des fois faibles et tombés. Comme le roi Salomon a le courage de le dire, 7 fois l'homme tombe avant de se relever. 7 fois il tombe. Et donc on commence par tomber. Après, on arrive à se renforcer, devenir tzaddik à l'extérieur, mais avec de mauvaises pensées. Et puis il faut peut-être 10, 30, 40, 50 ans pour devenir tzaddik vetovlo, pour devenir un tzaddik qui, même au niveau de son intériorité, il ne tombe plus. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le Benoni? La cinquième catégorie. Je vais l'expliquer d'une manière très simple, parce que dans le Tanya, ça va être expliqué de manière beaucoup, beaucoup plus profonde au fur et à mesure. Le Benoni, c'est quoi? Comme on le verra, c'est pas quelqu'un qui est moitié rachat, moitié tzaddik. C'est-à-dire, des fois il tombe, des fois il tombe pas. On verra que le Balatania refuse cette interprétation. Le Benoni, c'est quelqu'un qui, dans son vécu extérieur, lui non plus, ne tombe pas. Ça veut dire qu'il arrive à surmonter les tentations. Mais d'un autre côté, à la différence du tzaddik qui lui aussi a une faiblesse intérieure, chez lui, il le vit d'une manière beaucoup, beaucoup plus dure. Beaucoup, beaucoup plus dure. Des fois, il se fait des reproches. « Oh, mais je suis bête, mais pourquoi j'ai refusé ces 10 millions d'euros pour une simple signature? Mais je suis vraiment un imbécile. Si on me le repropose, la prochaine fois, je signerai. » Sans doute, il ne signera pas, mais il est vraiment très, très perturbé dans son intériorité. Ça veut dire, au niveau de son extériorité, comme on le verra, il ne tombe pas. Mais au niveau de son intériorité, et des fois, il se dit, mais je suis taré, mais pourquoi je me suis privé de recevoir tellement d'argent, ou pourquoi je me suis privé de telle femme, etc. Après tout, je veux dire, bon, comme 99,9% des hommes d'affaires partout dans le monde, ils sont vont en Chine, ils sont vont peu importe où, trouvez-moi-en un qui ne va pas tromper sa femme. Et le premier qui en trouve un, il a gagné. C'est impossible, impossible. Pourquoi? Parce que c'est un monde de débauche. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Mais bon, il a envie de s'amuser. Au lieu de jouer aux cartes ou d'aller danser, il prend une fille et voilà. Et donc, le Benoni, bien qu'on va nuancer les choses par la suite, c'est quelqu'un qui, au niveau de son extériorité, ne tombera pas. Mais au niveau de son intériorité, il est rongé en se disant « Mais qu'est-ce que je suis bête? Pourquoi je n'ai pas signé? Pourquoi je n'ai pas été avec cette fille-là? » etc., etc. C'est-à-dire, c'est pas comme le tzaddik qui, lui, se dit, mais comment j'ai pu imaginer d'aller avec cette fille-là? Comment j'ai pu imaginer que je serais prêt à signer pour avoir 10 millions d'euros? Ça veut dire que le tzaddik, c'est celui qui a une faiblesse au niveau de son intériorité, Mais sa question est, mais comment j'ai pu, ne serait-ce que quelques secondes, penser que j'irais avec cette fille-là? Tandis que le Benoni, c'est celui qui dit, mais qu'est-ce que je suis bête, mais pourquoi j'ai pas été avec elle, après tout, je veux dire, ma femme ne me voit pas, je suis à 10 000 kilomètres de mon pays, et elle va jamais le savoir. Ou pourquoi j'ai pas signé pour avoir 10 millions d'euros? Pourquoi j'ai pas signé? Donc ça veut dire que le Benoni va se faire un reproche, mais pourquoi je suis pas tombé? À la différence du tzaddik qui se dit, mais comment j'ai pu avoir telle pensée? C'est ça la nuance qu'il y a entre le tzaddik Veralo et le Benoni. On continue. Alors, au Pirshu Bagmara, le Balatania continue, il dit, dans l'Agmara on explique, qu'est-ce que c'est tzaddik Vetovlo? Tzaddik Gamour, un tzaddik total. C'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est un tzaddik qui est total au niveau de son intériorité et de son intériorité. Tzadik veralo, sheno gamour. Ça veut dire qu'il n'est pas parfait. Il est parfait au niveau de son extériorité, il ne tombe pas. Mais il n'est pas parfait au niveau de son intériorité, il a des faiblesses. Bien que tout de suite il se reproche d'avoir eu cette faiblesse, mais il a des faiblesses. Donc il n'est pas un tzadik parfait. On continue. Ou beraya meimna, dans le Zohar, le Baal HaTanya rapporte une autre explication dans le Zohar. Dans Parshat Mishpatim, qui dit Tzadik Veralo, qu'est-ce que c'est Tzadik Veralo? Donc une explication très différente de tout ce qu'on vient de dire. Sheara Shebo Kafouf Letov. Ça veut dire qu'il a du mal en lui, mais le bien en lui arrive à dominer le mal. C'est exactement ce qu'on a expliqué. L'explication est différente, mais le résultat est le même. Ça veut dire que le Tzadik Veralo, un Tzadik qui n'est pas parfait, bien qu'il ne tombe pas, Il a des forces de mal en lui qui arrivent à lui faire avoir de mauvaises pensées. Mais tout de suite, le bien intérieur reprend le dessus et maîtrise le mal intérieur. Mais il a malgré tout du mal en lui. Tandis que le tzaddik vetovlo, le tzaddik parfait, il n'a même plus de mal en lui. Ça veut dire qu'il n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'on lui demande. Non mais ça va pas, non? Tu me demandes de signer un faux contrat pour 10 millions d'euros. Non, mais tu me prends pour qui? Mais ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai même pas besoin de me poser la question. Donc celui-là, on pourrait dire qu'il a complètement éliminé tout le mal en lui. Mais la grande majorité des tzadikim ont malgré tout du mal en eux, qu'ils arrivent à dominer, mais qui de temps en temps se réveillent et leur fait avoir de mauvaises pensées. On continue. Au Begmara, il rapporte un autre texte du Talmud, dans Maseret Brachot, qui dit Tzadikim yetzerara shoftam. Rechaim yetzerara. Tzadikim yetzera tov shoftam. Rechaim yetzerara shoftam. Benoniim zeveze shoftam. Alors, une autre explication, on dit que le rachat, il est jugé par les forces du mal qui sont en lui. Ça veut dire juger, on va comprendre. Le tzaddik, il est jugé par les forces du bien qui sont en lui. Et le benoni, il est parfois jugé par les forces du mal. Et il est parfois jugé par les forces du bien. Alors ici, bien sûr, il y a une question énorme à demander. Normalement, le texte aurait dû dire, le tzaddik est attiré par les forces du mal. Le rachat est attiré par les forces du mal, le tzaddik est attiré par les forces du bien, et les benoni, des fois par les forces du bien, des fois par les forces du mal. La question est pourquoi shoftam? Pourquoi tu es jugé par les forces du mal? Quand tu es un rachat ou tu es jugé par les forces du bien, quand tu es un tzaddik? Alors, ce qu'il faut comprendre, toujours à un premier niveau, parce que, comme je l'ai déjà dit, on va rentrer au fur et à mesure beaucoup plus profondément dans ce texte fabuleux qui est le Tanya. Qu'est-ce que ça veut dire que le mal me juge ou que le bien me juge? En vérité, il faut comprendre, comme l'expliquent nos maîtres, que l'homme a été créé avec le libre arbitre. Ça veut dire que c'est Dieu qui a mis en l'homme le bon côté et le mauvais côté. Ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer HaTov, le penchant du bien, Yetzer HaRa, le penchant du mal. C'est lui qui nous a créés comme ça. L'homme n'a pas décidé, dès le départ, d'être mauvais. Malheureusement, l'homme a le libre arbitre, donc ça impose et qu'il ait deux forces en lui, une force mauvaise et une force bonne. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que dit le Talmud. En vérité, même si la force mauvaise me fait tomber, et je vais rapporter un texte dans quelques instants, en vérité, la force mauvaise, dans son fond intérieur, elle espère que je vais arriver à la surmonter. Nos maîtres disent une chose absolument incroyable dans le Talmud. Vous savez qui est devenu le plus grand ami, le plus grand défenseur de Avraham ? Le Satan lui-même. Pourquoi ? Parce que Avraham est arrivé toute sa vie à devancer, surmonter et faire tomber toutes les forces négatives qui voulaient s'opposer à lui. Et finalement, le Satan est venu devant Hachem et il a dit: ça, c'est un homme authentique. Avec tout ce que j'ai essayé de le faire tomber, il n'est jamais tombé. Ça veut dire qu'Abraham avait compris que toutes les forces du mal dans ce monde, on pourrait dire à leurs racines, elles sont là pour me permettre de monter. Parce que ce n'est pas le bien qui va me permettre de monter. Ben non, évidemment que non, puisque face au bien, je n'ai aucune force à développer pour me protéger. Donc, quelles sont en vérité... Et là, je vais dire quelque chose d'absolument fabuleux. J'oserais presque dire, comme le dit le Talmud, que le plus grand ami de l'homme, c'est les forces négatives. Parce que finalement, c'est elles qui vont faire de moi un héros, un véritable soldat, un véritable guerrier qui ne tombe plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi le Satan est devenu le plus grand ami et le plus grand défenseur d'Abraham ? Parce que le Satan, dans son fond intérieur, il ne veut pas que l'homme tombe, contrairement à toutes les bêtises que les religions nous enseignent. Ah, le Satan. Mais parce que toutes les religions sont le summum du mensonge. La Torah nous dit tout le contraire. Dieu a créé le mal pour aider l'homme à devenir un héros. Alors c'est vrai que la majorité tombe. Mais ceux qui arrivent à surmonter le mal se rendent compte que grâce au mal, je suis devenu un surhomme. Je ne suis jamais tombé. Et après, le mal devient le plus grand ami de cet homme qui est arrivé à surmonter toutes les forces négatives qui voulaient le faire tomber. Alors maintenant, on comprend, si on comprend ce que j'explique, que à la racine du mal se cache une volonté de faire grandir l'homme, et que le mal se réjouit quand il voit que l'homme n'est pas tombé avec de l'argent, avec une femme, avec le pouvoir, avec toutes les choses qui nous font tomber dans ce monde... À ce moment-là, le mal, il applaudit, il dit « Waouh, quel homme !» Avec la tentation que je lui ai envoyée, il n'est pas tombé. Quel homme! Et donc finalement, si durant toute sa vie, il va constamment surmonter le mal va devenir son plus grand ami. C'est d'ailleurs ce que disent nos maîtres, que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est de transformer l'obscurité en lumière, de transformer le mal en bien. De prendre le mal et le transformer en bien, c'est-à-dire de dévoiler la véritable source du mal, qui est en vérité cette volonté de faire de l'homme un géant de force et de courage. C'est ça la véritable raison du mal. Donc, maintenant on comprend pourquoi c'est le mal qui va juger le méchant. Alors, je vais l'expliquer d'une manière simple. Le mal va venir chez le méchant et dire « t'es vraiment un idiot, t'as rien compris, moi je t'ai éprouvé dans le mal ». Pour te faire grandir, pour que tu arrives à me surmonter, et puis tu es devenu un mouton, un lâche, un faible, et tu n'as fait que courir après moi pour que je t'en donne encore plus et encore plus, encore plus de mal et de perversion. Donc le mal, un jour, viendra et jugera les méchants et leur dira « Bande d'imbéciles, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que Dieu m'a créé pour faire de vous des héros et vous m'avez suivi comme des moutons ?» Donc je vous juge et je vous dis, vous êtes des nuls, vous êtes des rien du tout. Et maintenant, pourquoi le Tov va juger le Tzadik ? Le Tov va surtout juger le Tzadik qui est fort au niveau de son extériorité, mais qui n'a pas réussi à être fort au niveau de son intériorité. Ça lui arrive d'avoir de mauvaises pensées. Et donc le Tov va venir et lui dire, écoute, regarde, d'accord, c'est bien, tu n'es jamais tombé sur le plan extérieur, mais pourquoi tu n'as pas travaillé pour purifier ton intériorité et devenir un géant sur le plan de ton intériorité. Voyez, mes amis, ce sont des textes absolument fabuleux que le Baal HaTanya rapporte ici, qui nous permettent véritablement de comprendre le sens profond, authentique de la vie. On va continuer. Amar Rabba. Rabba, qui, comme on le sait, était un des plus grands maîtres du Talmud, a dit un jour sur lui, « Kegonana, sachez que moi, je ne suis qu'un Benoni. Je ne suis qu'un Benoni, c'est-à-dire je ne suis pas du tout un tzaddik, je ne suis pas un Racha, mais je suis pas un Benoni, mais je suis qu'un Benoni. » Son élève, Abaye, est venu, lui a dit, « Mais comment tu oses dire que tu es un Benoni ?» Pourtant, Loshavik mar chai le chol bria, si toi tu es un Benoni, alors tous les autres sont des Rechaim. Parce que toi tu es un homme immense. Comment tu peux te nommer Benoni? Si toi tu es Benoni, alors toute la population c'est des Rechaim. Comment tu oses dire ça? Alors, Vegam, leavin ma'ut madrigata Benoni. Et là, le Balatna commence à expliquer. Il faut comprendre que le Benoni, chez Bevadai, eno mirtza sruyot ou mirtza avonot. C'est pas un homme qui des fois tombe et des fois ne tombe pas. Mais quand il tombe vraiment dans la prostitution, dans la débauche, dans l'argent, dans le pouvoir, etc. Non, c'est pas du tout ça un Benoni. Chez Imken, parce que si c'est ça un Benoni, si c'est un homme qui tombe, Erta'a Rabba be'atzmo lomar shehu Benoni. Comment Rabba, qui était un des plus grands géants de toute l'histoire d'Israël, comment il ose dire qu'il est Benoni? Pourquoi? Il est tombé avec des femmes, il est tombé dans l'argent, il a assassiné des gens. Donc comment qu'il ose dire qu'il est Benoni? Donc c'est sûr que le Benoni, c'est pas celui qui tombe. Venoda, de l'opasik poumé megirsa. En plus, on sait que Rabba était un homme qui étudiait avec une profondeur incroyable, au point au point qu'au moment où il étudiait, même si entre parenthèses est arrivé peut-être un moment où il aurait dû tomber malade ou peut-être un accident ou je sais quoi, au moment où il étudiait avec une telle profondeur que le Malach HaMavet ne pouvait, que ce qu'on appelle l'ange de la mort, pardon en français, ne pouvait l'approcher. Tellement sa Torah dégageait une lumière que même l'ange de la mort ne pouvait l'approcher. Donc c'est clair que Rabba, quand il dit « je suis un Benoni », ne fait absolument pas allusion à quelqu'un qui tombe avec des femmes, avec de l'argent, avec la corruption, avec etc., etc. C'est absolument impossible, puisque c'est un homme qui n'est jamais tombé, au point que même l'ange de la mort ne pouvait pas l'approcher quand il était en train d'étudier. Alors comme on va le voir, mais on va le voir un peu plus tard, qu'en vérité que le Benoni, comme j'ai déjà commencé à expliquer, c'est quelqu'un qui dans son intériorité est très 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 perturbé, mais dans son extériorité ne tombe pas. Et peut-être que même si Rabba, au niveau de son intériorité, n'était pas un homme perturbé, mais peut-être que son extrême humilité l'a empêché de se voir comme un tzaddik et il a préféré se voir comme un Benoni. J'oserais même rajouter que n'oublions pas que Rabba était un homme qui passait 99,9% de son temps à étudier. Donc il n'était pas vraiment investi dans le monde matériel. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas voulu s'appeler un tzaddik. Parce que étant un homme authentique, il savait qu'un tzaddik c'est seulement celui qui est dans le monde matériel et qui ne tombe pas. Mais lui n'était pas dans le monde matériel. Donc comment il peut s'appeler un tzaddik? Donc il a préféré se nommer un Benoni. On continue encore une phrase ou deux. Je ne lis pas tout, hein, parce que bon, il y a des passages, parce que si je lis tout, on en a pour 100 000 ans. Donc, je vais... Alors, encore une phrase et on va s'arrêter. Velachen, Amrou Razal, nos maîtres nous disent, Bemidrash, dans un commentaire très, très puissant de nos maîtres, Ra'a Kadosh Baruch Hu bat Tzadikim, Hachem a vu que les vrais Tzadikim, Shem Moatim, ils sont très peu nombreux. Amad, Veshatlan, Bechol Dorvador, et c'est pour ça qu'il les a éparpillés dans chaque génération. Comme il est dit, Tzadik Yesod Olam, le tzadik est les fondations de ce monde matériel. Je terminerai par cette phrase. On a encore, mes amis, des milliards de choses à voir dans ce livre, le Tanya. Vous pouvez l'avoir en français aussi, qui est un des plus grands livres de ces dernières générations jamais écrits, parce qu'il contient des secrets inimaginables. Moi, je l'ai en hébreu, mais vous pouvez l'avoir en français aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que le tzaddik, on va terminer par cette phrase-là, « Yesod Olam », c'est lui qui soutient le monde. Vous avez une preuve de plus de tout ce que j'explique. Si le tzaddik est un homme qui est uniquement à la synagogue, ou uniquement à l'église, ou uniquement dans un temple, comment voulez-vous qu'il soutient le monde? Puisqu'il n'est pas impliqué dans ce monde. C'est comme si quelqu'un construit une maison et fait les fondations à côté de la maison. La maison va s'écrouler. Pour que la maison puisse tenir, il faut que les fondations soient sous la maison. Puisqu'on dit que le tzaddik c'est Yesod Olam, c'est les fondations du monde, on parle de ce monde réel. Et le tzaddik c'est lui qui soutient ce monde. Et comment il le soutient? Parce que lui aussi il est dans ce monde, mais lui ne tombe pas. Et qu'est-ce que nous dit nos maîtres? Les tzaddikim authentiques qui sont dans les affaires, qui sont dans ce monde et qui ne sont jamais tombés, il y en a tellement peu dans l'histoire humaine que HaKadosh Baruch Hu, il en fait descendre un ou deux par génération. Un ou deux par génération. En vérité, j'exagère parce que nos maîtres nous disent que dans chaque génération, il y a 36 justes cachés que personne ne connaît, que personne ne voit et c'est eux qui soutiennent le monde. Donc on ne va pas dire un ou deux, on va dire 36. 36 justes cachés dans chaque génération, 36 sur des milliards, qui eux soutiennent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce monde et ils ne tombent pas. Voilà mes amis, on continuera ce cours merveilleux la semaine prochaine, à tous et à toutes. Dans une heure, on allume les bougies de Hanouka ici en Israël, un peu moins d'une heure en vérité, puisqu'il est déjà 4h10, on va allumer à 5h. Donc dans pratiquement trois quarts d'heure, on allume les bougies de Hanouka. Et donc, à tous et à toutes, un très 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 bon Hanouka.